H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Auditrice, toujours sur Collioure, dans les ruelles plutôt bondées de monde, en ce week-end estival. Aujourd'hui, carte postale sonore un peu spéciale. Je vous amène à la rencontre d'Hervé Donaison, photographe. Et la particularité de ce photographe Hervé Donaison, c'est qu'il a pu photographier Dali. Il a suivi ce génie surréaliste pendant de nombreuses années afin de le photographier. Voilà, nous rentrons dans sa galerie. Enfin, c'est pas exactement sa galerie. C'est une installation où plusieurs artistes, dont Hervé, photographe, s'est installé. C'est plus silencieux. Et dès qu'il aura un moment de libre, je vais aller l'interviewer. H1000, portrait sonore. Enchanté de faire votre connaissance. Donc vous êtes photographe, voyageur, et vous avez connu personnellement Salvador Dali. Et moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est: est-ce que Dali était aussi excentrique dans l'intimité que dans ses représentations publiques?
Oui, on peut dire qu'il était extrêmement excentrique. Et bon, enfin, c'était une opportunité de le rencontrer grâce à un ami à Barcelone qui avait une agence de mannequins et qui organisait des soirées apéritifs lorsqu'il venait au Ritz à Barcelone. Donc on a pu faire connaissance. Mais enfin, moi j'avais 25 ans, le personnage était quand même assez impressionnant. Donc discuter avec lui, c'était difficile. Enfin, j'étais surtout préoccupé par faire de belles images. Pour réaliser des photos, donc il fallait qu'il soit en confiance. Donc, c'était pas le moment opportun pour discuter avec lui. Lui non plus, d'ailleurs. Il accordait un peu de temps, donc il était toujours très pris. Ce n'est que au cours de soirée, certains amis de Cadaqués pouvaient avoir des discussions plus personnelles. À l'époque, je sais que la lumière, déjà, c'était pas facile. On était arrivé en retard suite à une panne sur l'autoroute. Donc tout ça, ça occasionne un peu de stress. Et donc, j'étais axé sur mes photos. La toute première fois, donc, je l'avais rencontré par hasard à Bagnolas, installé à une table avec Amanda Lear, que je ne connaissais pas à l'époque, en 70. Et bon, là, j'ai pu prendre des rares photos où il était complètement naturel, parce qu'il ne m'avait pas vu. Mais la série de photos a duré maximum 6 minutes. Il s'est levé après, il est rentré, il est allé au parking et je l'ai suivi. J'ai pu faire une autre photo où il a posé gentiment, mais on n'a eu aucun échange.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, s'il était vivant, ses excentricités ne seraient-elles pas critiquées par la bien-pensance ?
Ah oui, sûrement qu'à notre époque, le moindre déplacement, toutes les performances qu'il a pu faire à droite ou à gauche, ça occasionnerait des manifestations, enfin tout au moins certains aussi excentriques qui voudraient se faire remarquer, ça poserait des problèmes.
Étiez-vous attiré par le travail de Salvador Dali ou est-ce que, comme vous l'avez précisé, ça a été finalement un concours de circonstances ?
Franchement, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la photographie, assez peu au travail de la peinture, enfin, généralement à l'art dans son ensemble, mais pas particulièrement à l'œuvre de Dali. Après, petit à petit, je me suis intéressé au personnage, bien sûr, et c'est un travail remarquable.
Qu'est-ce que ce personnage vous a laissé comme trace ?
Lors de mes... j'ai fait des reportages un peu partout, mais toute son œuvre, et, enfin, en dehors de ses performances, ses créations qu'il a fait aux quatre coins du monde, j'arrivais quand même à suivre dans les expositions. En 2014, pardon, à Beaubourg, il y avait une exposition extraordinaire qui rassemblait le maximum de ses œuvres, donc c'était vraiment unique.
Des artistes comme Dali manquent-ils aujourd'hui ?
Ah, sûrement. Enfin, ce côté fun, un peu, qui sort de l'ordinaire, qui fait pas forcément réfléchir, mais divertir les gens, c'est un personnage haut en couleur.
Mais il était critiqué, justement, par rapport à... Il se mettait trop... Enfin, les critiques disaient de lui qu'il se mettait trop en scène... Et que, en fait, ça dépareillait finalement le travail artistique, pictural, sculptural des artistes de sa génération.
À ce niveau, il y a toujours des puristes qui trouvent anormal que toutes ces extravagances, quand même, c'était pas déplacé par rapport à son travail. Il y a beaucoup de vidéos faites en Espagne aussi qui sont complètement burlesques, on peut dire, mais ça colle parfaitement
au personnage.
Ouais. Il avait fait en 1974, il y avait une émission avec Charles Trenet, j'avais pu faire des photos. Et donc, on peut retrouver d'ailleurs la discussion entre deux qui étaient très bons amis sur Dailymotion. Donc, il compte d'aller traîner. Et juste en 7 minutes, on voit l'importance de la créativité du personnage. Avec Dali, en permanence, il est à la recherche d'un gag, de faire quelque chose qui va attirer l'attention. Je me rappelle, à l'hôtel Ritz, il était chargé de faire une publicité, enfin, il était directeur artistique. Et donc, il avait disposé deux mannequins dans une baignoire avec des quantités de bijoux. Il y avait tous les bijoutiers de Barcelone aussi, c'était pas du toc. Donc il avait installé les mannequins et pendant la séance, au bout de, sur le coup des 11h du soir, il a dit arrêtez tout et le maître s'est mis à penser pendant une bonne minute et tout le monde attendait ce qu'il allait dire. Et il a demandé à un de ses assistants d'aller chercher des escargots. Et après il a disposé sur les bras et le cou des mannequins, des escargots. Et ils étaient ravis. Voilà les gags du maître.
Il avait beaucoup d'admirateurs autour de lui, d'admiratrices.
Ah oui, partout où il s'est déplacé. Enfin, les quelques fois où j'ai pu le suivre, oui, il avait toujours, il attirait les foules.
Est-ce que vous êtes natif de Collioure ?
Non, de Perpignan.
Parce que je vois, en fait, dans votre boutique, que vous avez beaucoup photographié au Collioure.
Oui. Oui, en fait, à Collioure, bon, j'exposais depuis plus de 20 ans. Et donc, j'avais ma galerie rue de la Fraternité pendant 9 ans.
Et qu'est-ce qui a changé profondément ici ?
Ce qui a changé beaucoup, c'est le tourisme en général, quoi, partout. Le tourisme saisonnier qui a envahi... enfin, que ce soit notre région ou les autres, évidemment, c'est un intérêt touristique et économique très important. Notre région, quand même, a des atouts exceptionnels, même uniques, par rapport à d'autres. Le seul souci, c'est que les gens sont un peu trop concentrés au bord de la mer. Ils ne profitent pas de l'arrière-pays. Et enfin, les montagnes, Canigou, Cerdagne et Cap-Cyr, c'est quand même... Il y a des endroits... Enfin, il y a du monde aussi, quand même.
Votre lieu privilégié, c'est la mer, la montagne, les alberts.
Oui, la mer. La mer, parce que notre côte, quand même, est superbe. Entre Collioure et Cadaquès, il y a des criques, tout ça. Même en plein été, on peut trouver des endroits tranquilles. Donc, tous les amoureux de la mer... je nage beaucoup, donc on peut faire du canoë, du windsurf, enfin, il y a des tas d'activités. Et c'est important pour la santé. Oui, dans les anecdotes d'Ali, il y a une phrase, il ne me l'a pas dit directement, mais enfin j'ai lu dans ses différents articles. Donc Dali disait, il y a des jours où j'ai l'impression que je pourrais mourir d'autosatisfaction.
Il se considérait comme un génie.
Oui.
Et c'était un génie.
Enfin, il en était persuadé, mais surtout la manière dont il le présentait, il y avait toujours ce côté extravagant, oui, j'ai dit trop fort, mais enfin, il était supérieur. Ouais. Dans son style aussi, parce que c'était un acteur extraordinaire. Il suffit de le voir. Il y a beaucoup de vidéos aussi aux États-Unis où c'est des discussions hautement scientifiques et toujours avec un humour extraordinaire.
Et tu sais pourquoi il a considéré que Perpignan, c'était la gare la plus belle du monde?
Oui, enfin, Perpignan, c'est la gare de Perpignan est le centre du monde. Ouais. Tout simplement parce que lorsqu'il envoyait des colis de ses tableaux, il venait, ou il envoyait quelqu'un pour les faire partir de la gare de Perpignan.
D'accord.
Voilà l'histoire.
Ah ouais, donc tous ces tableaux...
Tout ce qui partait de Perpignan, c'était...
Ouais. Ouais, Alia, c'était le centre du monde aussi, quoi, lui. Quoi.
Après, ces déplacements des plaques tectoniques, tout ce sont tout ce qu'il pouvait raconter, fabuler là-dessus, ça c'était aussi son délire artistique, ouais. Grandiose.
Donc c'était quelqu'un de grandiose pour toi, quoi.
Ah oui, oui. Oui, il y avait une présence. Bon, enfin, tous les photographes qui ont pu l'approcher, la manière dont il parlait, tout ça, c'était un sujet intarissable.
Mais est-ce qu'il y avait des moments où il était naturel?
Oui, je n'ai pas vu, mais enfin, à Cadaqués, quand il allait manger avec des amis dans les restaurants, il devait, enfin, naturel, je ne sais pas, parce qu'il jouait toujours la comédie. Surtout, chercher quelque chose, un gag à faire dans n'importe quelle circonstance.
Votre travail photographique s'est-il concentré uniquement sur des personnages tels que Dali ou ailleurs?
Non, dans les années 70, je collaborais avec une agence de presse et qui était axée sur les tournages de films. Donc j'ai pu faire quelques séances de prise de vue pendant les tournages. Il y avait César et Rosalie. Avec Romy Schneider et Yves Montand. Il y avait L'Âge Koumoun avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal. Les Talons avec Brouville. Et j'avais été photographe de plateau aussi d'un film avec des comiques français. Le titre du film, c'était L'Ingénu. Il y avait Corinne Marchand, Renaud Verlet. Pierre-Jean Vaillard, enfin beaucoup d'artistes de théâtre.
C'était plus facile dans les années 70? Est-ce que vous vous sentiez plus libre?
Plus libre, peut-être pas. Disons qu'il y avait une demande plus intéressante et des commandes de magazines ou de journaux. Après, tout ce travail, enfin, toute la partie un peu commerciale, ça a beaucoup baissé.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la photographie, à l'heure où avec les portables, les logiciels, on peut booster, améliorer l'image?
Oui, en termes de qualité, c'est un moyen très intéressant et qui a popularisé, disons, la photographie. Maintenant, c'est pas une raison pour que les médias, les diffuseurs considèrent que c'est un travail gratuit et profitent. Bon, il y a la baisse des budgets publicitaires, tout ça. Ça, on en est bien conscient. Mais enfin, il y a un marasme au niveau de la photographie professionnelle assez dramatique. Toute cette partie numérique prend un temps énorme. Donc, en fait, avant, tout le travail de laboratoire était confié à des professionnels, on ne s'en occupait pas. sauf le classement et marquer les légendes sur des caches de diapositives. Maintenant, il faut indexer les photos sur ordinateur, bien sûr, traiter les images, et ça prend pour tout le monde un temps énorme.
Donc c'est quand même plus difficile, me semble-t-il.
Oui, la prise de vue elle-même, on est toujours partant. C'est toujours un grand plaisir et une recherche créative nécessaire, essentielle même. Maintenant, après la rentabilité pour tout le monde, qui que ce soit, ou soit au niveau des commandes ou des expos, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh.
Est-ce qu'un photographe est sensible au son ?
Obligatoirement, parce que dans la nature, enfin, ceux qui travaillent en studio, c'est une chose, mais enfin, ceux qui aiment la nature et les voyages, tout ça, les bruits, les contacts, enfin, même le silence, c'est hyper important.
Et vous avez voyagé beaucoup à travers votre travail ?
Oui, pas mal. Enfin, à l'époque, les photos de voyage aussi, ça intéressait beaucoup de monde. Maintenant, tous les amateurs, ou même sans être amateur, juste un voyageur comme ça, occasionnel, ils peuvent prendre de très belles photos. Enfin, très belles. Lorsqu'on a grandi en 30-40, déjà, avec un téléphone, ça peut être limité. Mais bon, pour publier sur Internet ou les réseaux sociaux, ça suffit.
Ouais. Et justement, votre regard sur les réseaux sociaux ?
Ah, c'est un moyen de communiquer très sympathique. Après, il ne faut pas être obsédé de vouloir à tout prix communiquer. Il y en a beaucoup qui sont en mal de visibilité, donc ils recherchent absolument à montrer ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils croient savoir faire.
Pensez-vous que votre travail aussi participe à une réflexion autour de la préservation de l'environnement lorsque vous prenez des clichés de la nature, notamment en montagne, sur le Canigou ou bien vers les Alberts?
Oui, d'ailleurs, on peut le remarquer. Là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une photo où on voyait la plage nord de Collioure qui n'existe plus actuellement. Donc ça peut faire des réflexions. Il y a le barrage aussi de Vinsac que j'avais photographié il y a une quinzaine d'années qui était rempli à ras-bord. Donc tout ça, ça change un peu. Après, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour... Je vais rencontrer quand même... Enfin, en exposant longtemps à Collioure, il y a des personnes quand même très intéressantes. Et il y avait un amoureux de la nature qui m'avait dit qu'au niveau des forêts dans le Val-Espire, il y avait un changement dû à la sécheresse qui était vraiment remarquable. Pas dans le bon sens du terme. Mais bon, moi, je ne suis pas... Je connaissais toutes les essences d'arbres, donc c'est un autre travail. Ou si j'avais une commande spécifique sur... Oui, là, je peux m'intéresser sur un sujet particulier, pouvoir reconnaître des endroits qui sont plus comme avant. Là, je fais des images un peu commerciales, un peu pseudo-artistiques, mais pour sans me poser de questions. Quoi.
C'est quoi la différence entre une image artistique et commerciale ? Quel est le but d'une image, en fait ?
Le but, il n'y en a pas. Le tout, c'est de se faire plaisir, d'avoir une belle composition, des couleurs, ou que ce soit en noir et blanc. Un beau graphisme. Après, l'émotion, il faut que ça reflète une sensibilité de l'auteur, et pouvoir la transmettre, c'est un autre problème. Trouver des lieux d'exposition, c'est difficile. Après aussi, la clientèle, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Le fameux pouvoir d'achat...
Oui, ça, c'est un autre problème. Déjà, les gens qui s'intéressent à la photographie, alors il y a des endroits serrés, oui, on peut trouver, ou à Collioure hors saison, il y a une dizaine d'années, c'était mieux, déjà. Après, quand même, au niveau du tourisme de masse, ça, c'est pas... Beaucoup de confrères aussi, artistes, pense que il y a trop d'importations de produits asiatiques et qui nuit quand même à l'intérêt du touriste qui s'intéresse à l'art en général.
Est-ce que vous avez un cliché particulier que vous aimez plus qu'au-delà des autres, que ce soit avec Dali ou à travers vos différents voyages?
On le sent un peu partout, il y a des images qui marquent davantage, des coïncidences avec la lumière, enfin, des rencontres. Il y a une image de Collioure que j'ai pu faire, qui a duré 20 minutes. Et les conditions étaient exceptionnelles, un jour d'orage avec un arc-en-ciel qui rejoignait du château royal au bout de la jetée, avec juste une trouée de ciel bleu au milieu de nuages très, très noirs, très sombres. Donc là, c'est une image très forte. Qu'on s'intéresse à la photo ou pas, ça parle.
Et moi, il y a une image qui m'a saisi, c'est la photo de Collioure sous 20 ou 30 cm de neige. C'était assez incroyable, ça.
Oui, ça, c'était absolument génial et exceptionnel. Enfin, j'en rêvais depuis des années et des années, parce que quelquefois avant 2010, il neigeait 2-3 fois dans l'année, enfin l'hiver. Mais enfin, la neige ne tenait pas. Dès 10h, 11h du matin, la chaleur reprenait et la neige se transformait en pluie. Sinon, pour donc le 8 mars 2010, là, il y a eu une chute conséquente. Et avec froid, le lendemain, il y avait un ciel magnifique pour faire des photos. C'était unique.
Ouais. Et dernière question, quelle serait pour vous la photo idéale? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore saisi, une image que vous voudriez faire, mais l'occasion ne s'est pas présentée?
C'est pas tellement ça. Je crois que on ne rêve pas une image idéale, mais le but du photographe, c'est de rechercher la composition, quelque chose d'harmonieux, et donc toujours à la recherche d'une rencontre avec la lumière, un paysage ou des personnes. Et donc, on est toujours à l'affût d'une impression. Un photographe observe en permanence, donc souvent on peut paraître distrait, mais toujours je suis à penser, à étudier des caractères d'un personnage, ou de voir son côté photogénique, ou un endroit, chercher une perspective. Ou simplement être dans l'attente de la lumière pour pouvoir revenir à notre endroit, quel serait le meilleur moment. Après, on rêve toujours de voyages dans des paradis, enfin, paradis de rêve, tant qu'à faire, mais c'est pas à côté de chez soi, on peut trouver des choses très intéressantes, enfin, des sujets très intéressants à photographier.
Ouais, moi, personnellement, je trouve que le voyage, il commence autour de chez nous. Oui. Plutôt que d'aller faire 2000 km, rester une semaine, enfin.
D'ailleurs, il y avait un grand photographe, Jean Dieuzède, qui disait que son voyage, il le faisait dans son jardin. Et il a fait des photos extraordinaires, de la nature aussi, des effets graphiques. Il a aussi pas mal voyagé. La photographie en elle-même, elle se porte très bien. Il y a des millions d'appareils photos, de téléphones qui se vendent, ça, c'est pas le problème. Mais après, il faut pouvoir en vivre, c'est autre chose. Donc, en termes de qualité et d'intérêt aussi, il y aura toujours des visions personnelles de photographes, auteurs, qui seront très, très intéressantes. Mais tous les magazines, quand même, ont réduit énormément leur budget photo pour faire des productions photo. La publicité aussi, donc c'est plus du tout comme avant.
Merci.
Merci beaucoup, c'est un plaisir.
Je tiens à remercier Hervé Donnezan pour son accueil, et vous pouvez retrouver facilement ses clichés sur le net. Il suffit pour cela de taper son nom, Donnezan, D-O. 2-N-E-Z-A-N, Hervé, À très bientôt. Et respectez la nature. Observez-la. Tout d'abord, avant de l'aimer.